Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Environ 470 maisons écroulées et des champs détruits. Bilan des pluies diluviennes qui s'y sont abattues sur le territoire de Kasenga dans le Grand Katanga. Ce, entre le 4 et le 18 mars en cours, plusieurs familles se retrouvent sans abri et sans assistance jusqu'ici. Vote hier à l'Assemblée nationale du calendrier de la session de mars en cours. Les députés veulent se pencher prioritairement sur le processus électoral et le contrôle parlementaire notamment. Cependant, plusieurs autres députés ont relevé des propositions de loi qui sont toujours programmées mais jamais examinées. Et puis, mettre en œuvre des actions appropriées pour protéger les grands singes dans la province du Tanganyika. C'est l'objectif de l'atelier organisé récemment à Kalemi par l'Institut Jane Goodall. Pour en parler, nous recevons le directeur exécutif de cette ONG, organisateur de cette rencontre. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de la province du Haut-Katanga. Des maisons écroulées à la suite d'une pluie et des nombreux sinistrés sans assistance. Cela s'est passé à Kachobwe, dans le territoire de Kasenga. Ces dégâts se sont produits dans tous les quatre groupements du secteur Luapula. D'après l'administrateur adjoint de Kasenga en charge de l'économie, finances et développement, les groupements les plus touchés sont Kachobwe et Nkuba Kawama. Sa hiérarchie est déjà saisie, dit-il, pour des éventuelles solutions. Jean Gandou, au reportage.
D'après la société civile locale, les sinistrés sont des victimes des pluies qui sont abattues d'une part le 4 et le 5 et de l'autre le 17 et le 18 du mois en cours. En début du mois, ce sont 250 maisons qui ont été touchées et les 17 et les 18, 222 autres se sont écroulées pour un total de 472. Certains sinistrés ont trouvé refuge dans les familles d'accueil, d'autres occupent les salles de classe de l'école primaire Mulungushi et de l'Institut Kanganyoka. On y compte 327 hommes, 433 femmes et 522 enfants. Tous ne sont toujours pas assistés. Ils passent la nuit dans les salles de classe qu'ils libèrent le matin pour laisser la place aux élèves. D'après le responsable local de la société civile, il y a certains sinistrés qui font des petits travaux dans les champs de certaines personnes pour avoir de quoi nourrir leur famille. Entre-temps, les eaux des pluies ont détruit plusieurs champs de maïs, des haricots et autres. Cette structure citoyenne ne redoute la famine dans les semaines qui suivent, comme l'atteste Réconcile Banzamijibou, son coordonnateur.
Certainement, il aura famine à partir du mois d'avril. Ça sera catastrophe comme l'année 2020 n'eût été l'intervention des ADRA qui étaient venus nous assister pendant une année. Or, c'est le moment des récoltes à la longue là, la carence de vivres.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Dans la province du Lualaba aussi, la pluie a causé des morts à Kakanda dans le territoire de Lubudi. Dans la nuit de mardi à ce mercredi, d'après plusieurs sources, 5 personnes en sont mortes et les fouilles continuent. D'après la société civile, les eaux des pluies ont débordé le bassin qui est une ancienne mine de la Gécamine pour se déverser dans la rivière Kakanda. Ce bilan est donc provisoire d'après des sources sur place. Province du Maniema. Depuis lundi, les vendeuses de Kindu ne sont plus autorisées à exposer leurs marchandises au marché pirate créé devant le marché central de Kindu. Le maire de la ville leur a demandé de se diriger en face du bureau de la police district ville de Kindu où un espace appelé touriste a été aménagé. Parmi les raisons avancées par le maire, le marché pirate obstrue la voie publique, pollue l'environnement et expose les marchandes à des accidents de circulation. Mais ces vendeuses s'y opposent. Florence Kiza, reportage.
C'est depuis le 24 février qu'un moratoire de 7 jours avait été accordé aux mamans vendeuses pour qu'ils dégagent, mais sans succès. Depuis lundi dernier, la mairie est passée à la vitesse supérieure.
Nous avons les enfants qui étudient, nous n'avons pas de travail. Hier, on a changé nos biens. Dans les marchés, il n'y a pas de place. Partout où nous installons, on nous chasse.
C'est le coût de vie qui nous envoie à tout ça. Notre travail, c'est ce petit commerce d'histoire. Nous souffrons.
Pour le maire de Kindu, il n'est pas question. La décision reste maintenue. Augustin Moulamba.
Avoir les péripéties qui nous ont poussé à maintenir la décision, nous trouvons que ces mamans-là sont de mauvaise foi. Même si on leur accordait au jour d'aujourd'hui de reculer et de laisser la voie publique, elles ne vont pas tenir. Elles ne tiendront pas à cette promesse-là parce que nous avons expérimenté cela. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, elles continuent à étaler leurs denrées sur la chaussée.
C'est-à-dire la décision du maire reste maintenue?
Elle reste maintenue et c'est aussi pour la sécurité de tous les marchands.
Malgré la décision du maire, ces vendeurs demandent l'implication du gouverneur. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, vote hier mardi du calendrier de la session de mars à l'Assemblée nationale. Les députés veulent s'épancher prioritairement sur le processus électoral, la résolution de la question sécuritaire, mais aussi sur le contrôle parlementaire avec la révisitation des différents contrats. Avant adoption de ce calendrier, plusieurs députés ont apporté des amendements intégrant quelques propositions de loi toujours programmées mais jamais examinées. La loi Tchiani, endossée par le député Nsingi Poululu, a aussi été remise sur la table, malgré la désapprobation de certains députés. Michel Kifindangoy.
Prenant la parole, le député Nsingi Poululu plaide pour la programmation pour examen de la loi sur la nationalité.
Demain, je vais déposer l'acquisé de réception de cette loi afin que la loi soit mise en débat à l'Assemblée nationale. Encore une fois, errez les Congolais des pères et des mères, car la présidence de la République leur appartient. Vous autres, contentez-vous des postes qu'on peut vous donner.
Une loi qui risque de fragiliser davantage la cohésion nationale, estiment quelques députés. Guy Mafuta.
Le pays est tellement fragile, l'intégrité du territoire est tellement menacée que créer encore un autre problème risque d'être assez compliqué pour nous. Je crois que le président de l'Assemblée a été très clair. Qu'elle nous invite à voir l'environnement dans lequel nous voulons prendre certaines lois, cela dit tout.
Pour d'autres députés, la priorité de cette session ne devrait pas être les élections, mais plutôt la question de sécurité.
Le pays est sous menace, nous sommes agressés, et sous menace de la balkanisation. La priorité devrait être la question sécuritaire. Je pense que c'est le manque de patriotisme qui fait que les gens puissent brandir la question électorale comme s'ils sont sûrs de le gagner.
Certains élus plaident aussi pour l'examen de quelques propositions de loi toujours programmées mais jamais examinées, comme celle portant création de l'Ordre national des ingénieurs.
La présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, Madame Marie-Josée Ifoku, propose une transition de 2 ans en vue de résoudre la crise multiforme qui sévit dans le pays avant la tenue des élections de décembre 2023. Au cours d'une conférence de presse animée hier à Kinshasa, la seule femme candidate à la présidentielle du 23 décembre 2018 estime que cette période de transition ne devra pas s'apparenter à un partage des postes, mais l'occasion d'établir les bases d'un nouveau départ pour la stabilité du pays. C'est ce qu'elle appelle Renaissance de la RDC. Marie-Josée Ifoku invite à cet effet la classe politique, les confessions religieuses, la société civile, la jeunesse et les femmes à soutenir cette initiative. Elle est au micro de Jean-Marc Matouaki.
Je demande à tous que nous puissions nous arrêter, que nous puissions nous poser les bonnes questions, que nous puissions nous mettre tous ensemble pour aller à une transition de 2 ans afin de donner naissance à une nouvelle république, celle que j'appelle la 4e République, la république de l'équilibre, la république qui a 4 pieds. C'est à ça que j'ai fait appel ce matin parce que nous voyons bien que ça ne va pas. La guerre à l'Est continue, ça fait plus de 2 décennies, donc nous ne pouvons pas aller aux élections avec cette situation-là. Le dysfonctionnement de l'État, ça ne va pas, nous tous nous le savons très bien. Les tensions qu'il y a entre politiciens, alors que nous sommes rendus compte qu'il n'y a ni opposition ni majorité. C'est tous des politiciens. Nous sommes tous des politiciens. Et si nous avons été capables de nous battre pour des intérêts personnels, nous invitons les politiciens à pouvoir se battre pour toute la population congolaise, à se battre pour protéger le Congo. Parce que si nous demeurons de la distraction, d'autres personnes viendront nous séparer et pour continuer à piller nos richesses. Parce que nous devons prendre conscience que nous sommes un pays immensément riche. Nous sommes tellement riches que tout le monde nous regarde. Et donc nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une telle misère et regarder un groupe de gens continuer à se battre entre eux.
Dans l'actualité aussi, plus de 55 rescapés se sont retrouvés à la commune rurale de Maluku, dans la capitale Kinshasa. C'est après une attaque armée qui a visé mardi une embarcation se rendant dans la province de l'Équateur, sur le fleuve Congo, au niveau du village Kaba, en aval de Kwamut, dans le Maïndombe. Ils ont été sauvés de justesse grâce à un transporteur qui les a tous embarqués. Le député provincial de Kwamut, Moïse Makani, qui rapporte l'information, indique que ces rescapés sont parmi les 190 personnes qui ont été déclarés portés disparus après cette attaque, ce qui porte le bilan à 77 rescapés. Irène Mboma nous en dit plus.
Alors que le dernier bilan des victimes de cette attaque armée survenue mardi dernier contre cette embarcation sur le fleuve Congo a fait état de 10 morts, 20 rescapés et plus de 190 personnes portées disparues, 55 autres personnes ont été retrouvées vivantes à la commune rurale de Maluku à Kinshasa dimanche dernier. Le député provincial Élie de Kouamount, Moïse Makani.
Ces passagers-là sont arrivés là-bas par la voie d'un armateur, donc transporteur qui descendait vers Kinshasa en provenance du Bandundouville. Il les a pris arrivant à Maluku. Ils sont pris en charge par le bourgmestre de la commune de Maluku. Il m'a lancé un appel pour m'informer que devant lui, il a 55 rescapés.
Joint à ce sujet, le ministre provincial en charge de l'intérieur du Maïndombe, Barnabé Bopaka, indique qu'une équipe a été dépêchée par le gouvernement provincial pour voler au secours de ces rescapés à Maluku.
Nous avons appris et le service est là pour nous orienter vers une sonde pour aller le chercher. Donc, les efforts seront aménagés pour identifier tous les rescapés et leur apporter de l'aide qu'ils ont besoin.
En attendant, signalons que le premier lot de 22 rescapés ramenés à Kouamount Cité est pris en charge par le gouvernement du Maïndombe, a indiqué Barnabé Bopaka. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
En Ituri, plusieurs villages ont été saccagés, des biens pillés et au moins un mort dans une attaque hier des éléments armés identifiés par la population comme des miliciens du groupe armé Codeco. Cela s'est passé à Oucha et Boukou, deux groupements du territoire de Djougou. D'après la société civile locale, des habitants de ces entités ont trouvé refuge près de la base de la MONUSCO de Ro. Ces derniers ont tiré des coups de balle pour protéger la population contre cette menace. Cette structure citoyenne plaide pour le renforcement des effectifs militaires dans la zone. Jean-Claude Loki.
Une dizaine de villages ont été attaqués par des présumés Codeco avant que les forces loyalistes ne réagissent, affirme le responsable de la société civile de Mazé. Selon cette structure, l'ennemi a d'abord attaqué une position des FADC dans la matinée avant de revenir aux environs des 16h, explique Jean Maringues, son président. À leur passage, ces hommes armés ont incendié et enlevé les toitures de plusieurs maisons d'habitation. Des sources locales signalent également les pillages de biens des habitants de ces milieux qui ont tous trouvé refuge près de la base de la MONUSCO de Ro, où se retrouvent des milliers d'autres déplacés. Ce mercredi matin, ces personnes déplacées sont restées coincées au site. Difficile pour eux d'accéder à leur champ pour aller chercher de quoi manger, ajoutent les responsables de ces civils locales qui redoutent des décès, surtout parmi les enfants. Jean-Marie Nguès.
Il y a la vie de cette population, vraiment, c'est vraiment très critique. Je peux vous demander comme presse de nous faire alerte aussi au niveau des autorités qui peuvent même amener les vivres pour se déplacer parce que jusqu'à là, les enfants, les mamans vont mourir à cause de famine. Comme il n'y a pas moyen de mettre les pieds dans les villages.
Les casques bleus de la MONUSCO ont réagi en tirant des coups de balle, ce qui a dissuadé ces assaillants à ne pas attaquer le site de Ro, déclare un habitant jouant au téléphone. Radio Capi n'a pas réussi pour l'heure à avoir la réaction de l'armée. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Du côté du Nord Kivu, une accalmie relative s'observe dans la région de Rugari sur l'axe Goma-Rutshuru, une zone toujours occupée par les forces d'autodéfense Nyatura. C'est à l'issue des affrontements lundi et hier mardi contre les rebelles du M23 RDF. D'après les sources dans la région, ces rebelles se seraient retirés après cet échec au pied des collines Mikeno, mais aussi à Katale, l'une de leurs bases importantes. Nos sources renseignent que le trafic des mototaxis a également repris hier soir. Plusieurs voix s'élèvent déjà pour demander au FARDC d'aller renforcer ses positions récupérées par les Nyatura afin de chasser définitivement ces rebelles du M23 de cette région. Le point avec Blaise Shindani Kambala.
D'après nos sources dans la zone, les forces d'autodéfense occupent toujours Rugari ce mercredi après avoir délogé les rebelles du M23. Cette région est aussi stratégique parce que les Nyatura occupent des positions jadis occupées par les FARDC sur les collines surplombant la région, notamment l'axe routier Goma-Rutshuru. Les rebelles du M23 restent vers Kibumba, 15 km côté sud, où ils ont érigé une barrière, mais aussi ils sont à Katale du côté nord, ainsi que vers Mikeno, côté est de Rugari, à la frontière avec le Rwanda. Un petit nombre de la population qui s'est trouvée à Rugari est allé se regrouper à la paroisse de Rugari et à Rumangabo pour se mettre à l'abri. La circulation des mototaxis a repris depuis hier soir, bien que la situation ne rassure pas encore. Rappelons que la force régionale de l'ASC, notamment les militaires kenyans, sont toujours déployés dans la région et font des patrouilles sur différents axes, indiquent nos sources.
Par ailleurs, dans le Masisi, chefferie de Bachali Mokoto, la situation reste incertaine. Nos sources indiquent que les rebelles du M23 ont attaqué les forces d'autodéfense à Kivuye qu'ils occupent depuis ce matin. En outre, les militaires burundais de l'EAC, arrivés dimanche dernier à Kichanga, seraient rentrés aussitôt à Kiroli-Rue après la remise et reprise avec le M23 lors d'un rassemblement au rond-point de Kichanga où les rebelles sont toujours présents. Justice. Le parquet général de la Gombe a transféré depuis ce matin à la prison centrale de Makala, ici à Kinshasa, Albert Tamba, greffier en chef de la Cour de cassation, et Madame Matondo, greffière divisionnaire en chef du tribunal de commerce de la Gombe. Placés sous mandat d'arrêt provisoire depuis hier, il leur est reproché notamment l'abstention coupable. C'est le fait pour un fonctionnaire de l'État ou toute personne chargée de service public de retarder ou de retenir sans motif valable des fonds ou deniers publics dont il a la gestion et qui sont destinés au paiement des rémunérations, des créances, des traitements ou salaires. L'infraction vise aussi le fonctionnaire qui s'abstient volontairement de faire dans le délai lui imparti par la loi ou par les règlements un acte de sa fonction ou de son emploi qui lui a été régulièrement demandé. Par ailleurs, 16 détenus de la prison centrale de Matadi, condamnés par les différentes instances judiciaires du Congo central, sont en liberté depuis lundi. Ils sont tous bénéficiaires de la grâce présidentielle suite à l'ordonnance signée le 27 décembre 2022, selon Pierre Mukuna, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Matadi qui a fait le déplacement de la prison du camp Moulaï de Matadi pour exécuter cette décision. La sélection de tous les graciés s'est faite conformément aux critères énumérés dans l'ordonnance présidentielle. Nous y reviendrons.
Actualité internationale.
Nous sommes au Nigeria. Peter Obi, arrivé troisième à l'élection présidentielle du mois dernier, a demandé à la cour d'appel de le déclarer vainqueur et d'annuler la victoire de Bola Tinubu. Il a dit mardi à Abuja, le candidat du parti travailliste a fait valoir que le candidat du parti au pouvoir n'était pas qualifié pour gouverner car il n'avait pas le niveau d'éducation minimum requis.
L'invité.
Mettre en œuvre des actions appropriées pour protéger les grands singes dans la province du Tanganyika, tel est l'objectif de l'atelier organisé par l'Institut Jane Goodall qui s'est tenu à Kalemi. Le directeur exécutif de cette ONG, organisateur de la rencontre, est notre invité. Emola Hachim s'entretient avec Paulin Munanga.
Monsieur Emola Pipen Hachim, bonjour.
Bonjour.
L'atelier a traité de la question de la conservation de grands singes dans l'est de la RDC. Pourquoi avez-vous organisé cet atelier dans la province du Tanganyika?
Parce que il existe d'abord un plan d'action de conservation des grands singes au niveau du paysage qui comporte cinq provinces, province Tchopo, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et la province du Tanganyika. Alors il était question que les acteurs locaux de la province de Tanganyika s'imprègnent du contenu de ce plan d'action parce que lors de l'élaboration, elle avait été représentée par quelques acteurs, mais il était maintenant question de s'assurer que tous les autres acteurs sont informés du contenu de ce plan-là pour que des actions appropriées, adéquates, soient mises en œuvre au niveau de la province du Tanganyika en tenant compte de ces réalités.
En quoi consiste ce plan d'action?
Oui, le plan d'action, il comporte pratiquement cinq stratégies qui définissent les différentes activités pour s'assurer que les grands singes sont bien protégés et que les communautés riveraines qui vivent autour des aires protégées ou bien de zones où ces grands singes existent connaissent aussi un développement harmonieux tout en assurant une cohabitation, je dirais même pacifique, entre les grands singes et les populations locales.
Est-ce que dans la province du Tanganyika, existe-t-il ces grands singes?
Effectivement, nous avons la réserve de Kabobo qui se situe dans le territoire de Kalemi, qui regorge de grands singes. Et au cours de l'atelier, les participants ont témoigné de l'existence de ces espèces, des grands singes, au niveau de Moba et aussi dans le territoire de Nyunzu. Alors, bien évidemment, l'une des actions qui a été retenue pour s'assurer de ces cette existence, c'est la conduite de missions de biomonitoring dans ces différentes zones sur base de méthodes scientifiques pour confirmer ou infirmer cette présence.
Est-ce que les moyens sont là pour protéger ces grands singes? Parce que souvent, on organise ces genres d'ateliers qui sont fréquents, notamment ici dans la province du Tanganyika, mais après, il n'y a pas de suivi.
Il s'agit des activités qui sont réalisées par toutes les organisations, qu'elles soient internationales ou locales, mais à l'exception du fait que maintenant, ces activités-là seront coordonnées. Deuxièmement, le plan lui-même comporte différentes activités qui peuvent faire l'objet de la recherche de financement pour tous les acteurs qui ont adhéré à la mise en œuvre de ce plan-là. Et donc, nous ne voulons pas assez qu'on attende de moyens particuliers, mais déjà avec ce que les acteurs sont déjà en train de faire, il faudrait que ces acteurs-là comprennent qu'ils peuvent déjà, en coordonnant leurs actions à partir des efforts collectifs, atteindre des résultats escomptés par rapport à la préservation de ces espèces-là.
Quelles sont ces menaces-là qui pèsent réellement sur ces singes?
Nous pouvons parler de la chasse illicite, le commerce illicite de la viande de brousse. Voilà, il y en a autant. Hein. Il y a plusieurs menaces, il y a des pièges qui sont posés dans les aires protégées, etc. Il y a l'exploitation minière, hein, parce que quand les artisanaux miniers interviennent dans une zone, ils sont obligés de se nourrir et bon, ils recourent à la chasse. Donc, les menaces ont été identifiées. Il y a aussi la pollution des eaux, parce que les aurifères, par exemple, utilisent le mercure qui pollue les eaux et les grands singes aussi ont besoin de boire cette eau-là. Et donc, voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais ce sont des menaces réelles et nous voudrions assez que ces menaces-là soient atténuées.
Et aussi les conflits.
Bien évidemment, parce que si nous sommes dans la province du Tanganyika, mais si les conflits ont un impact surtout important sur l'habitat de grands singes. Dans la province du Nord Kivu, par exemple, le camp de Kanaruchina, qui est un cas récent, autour du territoire de Nyiragongo, les réfugiés ou les déplacés viennent de raser pratiquement une bonne surface du parc national de Virunga. C'est pour dire que les conflits aussi exacerbent ces menaces-là et nous devons utiliser tous les moyens possibles pour prévenir à ce genre de menaces.
Monsieur Emon Lapipen Hachim, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.